Maurice se souvient des seules boissons fortes disponibles en prison. Alcool frelaté de prunes et de raisins. Et même s'il picolait seulement en de rares occasions, comme son anniversaire, et celui de John Rothstein, qu'il marquait toujours d'une unique rasade, sa colère grandit encore. De la bonne picole et de la bonne bouffe. Voilà ce qu'Andy Hallyday a eu pendant que Maurice faisait de la teinture de gin. Inhalait les effluves de vernis et vivait dans une cellule à peine plus grande qu'un cercueil. Il était allé en tôle pour viol, c'est sûr. Mais jamais il se serait trouvé dans cette ruelle, dans un furieux trou noir induit par l'alcool, si ce type n'avait pas refusé sa demande et l'avait pas envoyé promener. « Maurice, je devrais même pas être vu avec toi », c'est ce qu'il avait dit ce jour-là, avant de le traiter de barge. « Super luxe, mon vieux !» Andy regarde autour de lui, comme s'il s'apercevait pour la première fois du luxe ambiant. « Oui, c'est ce qu'on dirait, » admet-il. « Mais les apparences peuvent être trompeuses, Maury. La vérité, c'est que je suis quasi fauché. Cette librairie s'est jamais remise de la récession et de certaines allégations. Tu dois me croire. » Maurice pense rarement aux enveloppes remplies de billets que Curtis Rogers a trouvées avec les carnets cette nuit-là dans le coffre de Rothstein. Mais maintenant, il y pense. Son vieux pote a chopé le fric en même temps que les carnets. Pour ce qu'en sait Maurice, ce fric a servi à payer le bureau, le tapis et les chics carafes à alcool en cristal. Là-dessus, la bulle de colère finit par éclater. Et Maurice, sa casquette en dégringole de sa tête, balance la hachette. Celle-ci décrit un arc de cercle oblique, mord l'épaisseur de gabardine grise, et dans un chomp, vient se ficher dans la fesse bouffie en dessous. Andy pousse un cri strident et tombe en avant. De ses avant-bras, il amortit sa chute contre l'arête de son bureau, puis tombe à genoux. Un flot de sang se déverse par une fente de 15 cm dans son pantalon. Il plaque une main sur sa blessure, et le sang ruisselle entre ses doigts. Il tombe sur le côté, puis roule sur le tapis turc. Cette tâche-là, pense Maurice non sans satisfaction, tu réussiras jamais à l'enlever, mon vieux. Andy piaille.
T'avais dit que tu me ferais pas de mal!
Maurice médite ses propos et secoue la tête. Je crois pas l'avoir exprimé aussi clairement, mais je suppose que j'ai pu le sous-entendre. Avec un sérieux sincère, il fixe du regard le visage convulsé de Andy. Considère ça comme de la liposuction à domicile. Et tu peux encore t'en sortir vivant. Tout ce que t'as à faire, c'est me donner les carnets. Ils sont où ? Cette fois-ci, Andy peut plus faire semblant d'ignorer de quoi parle Maurice. Pas avec le cul en feu et une fontaine de sang qui lui coule sous la hanche.
Je les ai pas !
Maurice pose un genou à terre, en prenant bien soin d'éviter la mare de sang qui s'étale. Je te crois pas. Ils ont disparu. Il reste plus que la malle qui les contenait. Et personne à part toi savait que je les avais. Alors je te repose la question. Et si tu veux pas examiner de près tes tripes et revoir ce que t'as bouffé à midi, tu ferais bien de soigner ta réponse. Où sont les carnets ?
Un gosse les a trouvés. C'est pas moi, c'est un gosse. Il habite dans ton ancienne maison, Maury. Il a dû les trouver enterrés dans le sous-sol ou quelque part.
Maurice regarde son vieux pote bien en face. Il cherche un mensonge sur son visage, mais il cherche aussi à s'adapter à ce soudain revirement d'une situation qu'il pensait maîtriser. C'est comme prendre un virage à 180 degrés au volant d'une voiture qui roule à 100.
« Je t'en prie, Maury, je t'en prie. Il s'appelle Peter Saubers. »
Voilà qui achève de convaincre Maurice, car il connaît le nom de la famille qui vit maintenant dans la maison où il a grandi. De plus, un type avec une profonde entaille dans le cul pourrait difficilement inventer des détails aussi précis sur l'inspiration du moment. Comment tu sais ça ?
Parce qu'il veut me les vendre ! Maury, j'ai besoin d'aller aux urgences. Je saigne comme un porc égorgé.
T'es un porc, songe Maurice. Mais t'en fais pas, vieux pote. Dans pas longtemps, tu seras délivré de ta misère. Je m'en vais t'expédier là-haut dans la grande librairie du ciel. Mais pas encore. Car Maurice entrevoit un brillant rayon d'espoir. « Il veut me les vendre », a dit Andy. « Pas il a voulu. »«
Raconte-moi tout », dit Maurice. « Puis je m'en irai. Tu devras appeler l'ambulance toi-même, mais je suis sûr que tu pourras y arriver. »«
Comment je peux savoir si tu dis la vérité ?
Parce que si le gosse allait carner, tu m'intéresses plus. Évidemment, tu dois me promettre de ne pas leur dire qui t'a blessé. C'était un type masqué, hein ? Probablement un drogué. Il voulait de l'argent, pas vrai ? Andy hoche vigoureusement la tête. Rien à voir avec les carnets, hein ?
Non, rien. Si tu crois que je veux voir mon nom mêlé à ça...
J'imagine que non. Mais si tu cherches à inventer une histoire, et que mon nom figure dans cette histoire, je devrais revenir.
Je ferai pas ça, Maury, je ferai pas ça !
Et là-dessus, il sort une déclaration aussi puérile que cette lippe luisante de salive.
Parole d'Indien !
Dis-moi tout, alors. Andy s'exécute. La première visite de Saubers, avec les photocopies des carnets et des dépêches de l'Olympe pour comparer. Comment, rien qu'avec l'étiquette de bibliothèque collée sur le dos des dépêches, Andy a pu identifier le gosse se faisant passer pour James Hawkins. La deuxième visite du gosse, quand Andy a donné un tour d'écrou. Le message vocal au sujet du week-end des délégués de classe au centre de vacances de Riverbend. Et sa promesse de repasser le lundi après-midi, dans 2 jours à peine. Quelle heure lundi ?
Il l'a pas dit. Après l'école, je dirais. Il va au lycée de Northfield. Maury, je saigne.
Oui, dit Maurice d'un ton absent. Oui, sûrement. Il réfléchit furieusement. Le garçon prétend avoir tous les carnets. Il est possible qu'il mente, mais sans doute pas. Le nombre qu'il a annoncé à Andy paraît juste. Et il les a lus. Voici qui enflamme une étincelle de jalousie empoisonnée dans la tête de Maurice Bellamy et déclenche un incendie qui se propage bientôt à son cœur. Le petit Saubers a lu ce qui était destiné à Maurice et à Maurice seul. C'est une grave injustice qui doit être punie. Il se penche sur Andy et demande. « T'es gay. T'es gay, hein, que tu l'es. » Les cils de Andy papillonnent.
« Si je suis... Mais quel rapport ça a ? Maury, j'ai besoin d'une ambulance !»«
Tu vis avec quelqu'un ?» Son vieux pote est blessé, mais pas idiot. Il voit bien ce qu'implique une telle question.
« Oui. »«
Non, pense Maurice. » Et il balance la hachette. « Chomp !» Andy pousse un hurlement et commence à se tortiller sur le tapis sanglant. Maurice balance un autre coup, et Andy hurle encore. Heureusement que la pièce est tapissée de livres, pense Maurice. Les livres font une bonne isolation. Tiens-toi tranquille, bougre de toi, dit-il. Mais Andy se tient pas tranquille. Ça prend 4 coups en tout. Le dernier s'abat sur l'arête du nez de Andy, lui éclatant les 2 yeux comme des raisins. Et enfin, le tortillement cesse. Maurice retire la hachette, dans un grincement étouffé d'os contre acier, et la laisse tomber sur le tapis à côté de l'une des mains tendues de Andy. « Voilà, dit-il. Terminé. » Le tapis est trempé de sang. Le devant du bureau est constellé d'éclaboussures. L'un des murs aussi, ainsi que Maurice lui-même. Le bureau de l'arrière-boutique est une scène d'abattoir. Mais ça ne perturbe pas Maurice outre mesure. Il est plutôt calme. Ça doit être le choc, pense-t-il. Et après, il a besoin d'être calme. Les gens perturbés oublient des choses. Il y a 2 portes au fond de la pièce, derrière le bureau. L'une donne sur le cabinet de toilette privé de son vieux pote, l'autre sur un placard. Il y a plein de vêtements dans le placard, y compris 2 costumes d'aspect coûteux. Mais ils ne sont d'aucune utilité à Maurice. Il flotterait dedans. Il regrette que le cabinet de toilette ait pas de douche, mais avec des scies, comme on dit. Il se contentera du lavabo. Tandis qu'il retire sa chemise sanglante et se lave, il tente de passer en revue tout ce qu'il a touché depuis qu'il est entré dans la boutique. Il pense pas qu'il y ait grand-chose. Mais faudra pas qu'il oublie d'essuyer la pancarte accrochée à l'entrée. Et aussi les boutons de porte du placard et de ce cabinet de toilette. Il se sèche et retourne dans le bureau. Abandonnant la serviette et sa chemise souillée de sang près du corps. Son jean aussi est éclaboussé. Et ce problème est rapidement résolu par ce qu'il trouve sur une étagère du placard. Une pile de t-shirts soigneusement pliés et séparés par des feuilles de papier de soie. Il en trouve un XL qui cachera son jean jusqu'à mi-cuisse, c'est-à-dire le plus gros des taches. et le déplie. Imprimé sur le devant, il y a écrit « Andrew Hallyday Rare Editions », plus le numéro de téléphone de la boutique, l'adresse Internet et un livre ouvert en guise d'illustration. Maurice pense. Il doit en faire cadeau à ses gros acheteurs, qui les prennent, disent merci, les portent jamais et les oublient. Il commence à enfiler le t-shirt, puis se dit qu'il a vraiment pas envie de se balader en affichant sur sa poitrine le lieu de son dernier meurtre, et le retourne sur l'envers. Les lettres se voient un peu par transparence, mais pas assez pour qu'on puisse les lire, et le livre ouvert pourrait être n'importe quel objet rectangulaire. Ces dockers restent un problème néanmoins. Les semelles sont souillées de sang, et le dessus en est éclaboussé. Maurice examine les pieds de son vieux pote, hoche judicieusement la tête, et retourne voir dans le placard. Le tour de ceinture de Andy fait peut-être le double de celui de Maurice, mais leur pointure semble à peu près la même. Il choisit une paire de mocassins et les essaie. Il le serre un peu, et il aura peut-être bien une ampoule ou deux, mais les ampoules sont un petit prix à payer pour ce qu'il a appris ici et pour la revanche tardive qu'il a extorquée. Et puis, c'est des chaussures vachement classe. Il rajoute les siennes à la pile de trucs gluants sur le tapis, puis examine sa casquette. Pas la moindre éclaboussure. Ça, c'est une chance. Il la recoiffe et fait le tour du bureau, essuyant les surfaces qu'il sait avoir touchées et celles qu'il aurait pu avoir touchées. Il s'agenouille près du corps une dernière fois et lui fouille les poches, conscient qu'il remet du sang sur ses mains et qu'il va devoir les relaver. C'est la vie. « Ça, c'est Vonnegut, » pense-t-il, « par Rothstein. » Et il rit. Les allusions littéraires le réjouissent toujours. Les clés de Andy sont dans une de ses poches de devant, son portefeuille glissé contre la fesse que Maurice n'a pas entamé avec la hachette. Toujours de la veine. Pas grand-chose comme argent liquide, moins de $30, mais il n'y a pas de petites économies, comme on dit. Maurice met les billets et les clés en lieu sûr, puis il retourne se laver les mains et essuie les robinets. Avant de quitter le Sanctum Sanctorum de Andy, il contemple la hachette. Le fer est englué de sang et de cheveux. Le manche caoutchouté porte clairement l'empreinte de sa paume. Il devrait sans doute l'emporter dans l'un de ses sacs de jardinage, avec sa chemise et ses chaussures, mais une intuition, trop profonde pour être traduite en mots, mais très puissante, lui dit de la laisser, du moins pour le moment. Maurice la ramasse, essuie le fer et le manche pour en ôter toute empreinte, puis la dépose doucement sur le bureau chic, comme un avertissement ou une carte de visite. « Qui a dit que je suis pas un loup, Monsieur McFarland ?» demande-t-il au bureau vide. « Qui l'a dit ?» Puis il sort, se servant de la serviette maculée de sang pour tourner la poignée.